CO2 Mon Amour, avec le WWF. Ensemble, agissons pour laisser une planète vivante. Rendez-vous sur www.fr.
Nous sommes des abeilles qui butinons le visible pour le rendre invisible.
CO2 Mon Amour.
C'est-à-dire que notre rôle sur cette terre est de comprendre suffisamment ce qui nous entoure, d'en être suffisamment proche pour le préserver dans la façon dont nos vies successives contribuent à créer une invisibilité permanente de l'humain.
Avec Denis Chessot.
C'est l'humain en nous que la poésie doit pouvoir sortir de sa gangue matérielle pour le rendre invisible et immortel.
Sur France Inter.
Formidable Stéphane Hessel, donc, pour débuter cette émission qui nous disait indignez-vous, et puis aussi, donc, agissez, parce que l'indignation n'est pas suffisante. Agissez, c'est ce qu'on essaye de faire, donc, les uns et les autres dans cette émission. CO2 Mon Amour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans cette émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec aujourd'hui Charles Pélabon à la technique. Nous avons préparé l'émission avec Marion Philippe et c'est Camille Blanès qui la réalise. Est-ce que ça va débuter par une petite humeur? Oh bah je le crains. Moi, je serai directeur d'une grande surface de bricolage. Et bah je ferai rentrer FISA un énorme stock de peinture verte biologique de préférence. Parce que c'est parti pour la fête des brosses et des pinceaux. Élection européenne à tous les étages. Vous voulez du vert ailleurs que dans le fruit? Eh ben, on va vous en donner. Comme le baron Potemkin qui faisait rafraîchir en décor de théâtre les rues pisseuses de sales villages traversés dans le but d'épater son impératrice de toutes les Russies. Eh bien, tous les Playmobil de la politique ou presque ont enfilé la combinaison verte anti-pollution, durable, anti-réchauffement. L'horizon des grandes idéologies étant particulièrement bétonné, il s'agit de redonner au peuple l'image au moins d'une fresque illusoire d'un renouveau radieux et qui passera donc par l'écologie et on le souhaite ardemment car depuis 25 ans dans CO2 Mon Amour et un peu partout, c'est la voie d'apaisement. Si, dans ce monde en surchauffe de tout. Donc, les gars, vous me faites un large et bon casting. En marche, on doit tout attraper, se muscler sur l'écologie, car quand même, faut pas se mentir, on est un peu faiblard. Vous mettez une navigatrice convaincue, Catherine Chabot, océan dans sa gourde, centriste recyclable, pour affronter vagues et tempêtes européennes, elle sait écoper, on en a besoin. Un jeune agriculteur, éleveur FNSEA, bien dans la ligne chimique, qui crie mort au loup et roule le glyphosate. Et, Pécho, le directeur du WWF, comme le disait excellemment Vizorek dans Par Jupiter, un Pascal pour qu'enfin de l'écologie, on en parle vraiment. Je pense que les réunions internes seront passionnées. Alors, chez les Républicains, qu'est-ce qui se passe? Là, au moins, de l'écologie dans le programme, il n'y en a pas, ou vraiment pas grand-chose. Au moins, on est tranquille, l'environnement n'est vraiment pas leur bel ami. Au Rassemblement National, on fait front et je trempe la chemise brune dans du sirop de menthe avec une écologie locale, française et identitaire. Vous aimez la gauche? Vous l'aimez tellement que vous en aurez plein de morceaux. Alors, la façon puzzle, avec du vert partout, ils ont essayé de réussir le plat unique, mais alors Insoumis, Génération, gueule cassée du PS, Europe Écologie des Verts, là avec des vrais gros morceaux quand même d'écologistes, et ben voilà, ils avaient en gros les mêmes aspirations écolo, mais le levain, il a pas levé. Et chacun ses grosses miettes ramassera et jouera les glaneurs, cher à Agnès Varda. Alors le monde est com, le monde est green. On va mettre le paquet de lessive verte. Et dans le fond, tant mieux. Car passage obligé, rappel à l'ordre de la nature qui en a marre. Ce n'est pas trop tôt, même si c'est un peu tard. L'écologie, c'est plus pour faire joli dans le décor. Alors les jeunes, ils poussent, ils mettent le pied dans la porte. Et si vous la fermez, ils passeront par la fenêtre. Pour que leur avenir ne ressemble pas une cocotte minute déjantée avec barbarie incorporée. Ils ne veulent pas qu'avoir, ils veulent être. Et oui, c'est à l'Union européenne que se décide une grande part de l'environnement. Secouer le shaker, secouer le combat culturel, celui-là, il est gagné. Ne reste plus qu'à faire de cette illusion longtemps, longtemps moquée, une trajectoire bien crantée. Bref, une histoire commune, un projet de société. Alors le défi, en fait, il est sublime. Hein, la peur, il faut la ranger. Secouez les urnes et vos élus. Sortez en citoyens tous les possibles en vous, et Dieu sait s'il y en a, pour que les villages Potemkine ne soient pas qu'une légende, mais deviennent une réalité. Alors avant de vous emmener dans cette zone sensible, vous allez comprendre, c'est un, je crois que vraiment c'est un moment tout à fait à la fois poétique, naturaliste, nourricier avec Olivier Darnay, donc ce sera en Seine-Saint-Denis, ce sera même à Saint-Denis. Nous aurons donc, je vous l'ai dit, Fernando Solanas pour son prochain documentaire Le Grain est livré, qui va nous emmener dans les champs de soja, franchement transgénique et franchement en Argentine. Et ben on va débuter par une petite actualité, on y va, tous au compost, vive l'amendement naturel du 30 mars au 14 avril. Ça débute, c'est la 6e semaine nationale du compostage de proximité. Et Isabelle Gaton du réseau Compost Citoyen, soutenu par l'ADEME et la Fondation Le Marchand, est avec nous. Bonjour Isabelle. Moi j'insiste beaucoup, hein, parce que c'est important, le compost en ville.
Bonjour Denis. La première chose, c'est qu'on se rend bien compte qu'en ville, il y a de plus en plus de déchets organiques qui sont faits, parce qu'on est nombreux, parce que les gens aiment manger des fruits et des légumes. Et on se dit, c'est quand même vraiment bête de jeter toute cette belle matière à la poubelle.
Isabelle Gaton, dans notre poubelle, on a 30% de déchets organiques. Mais est-ce qu'on sait combien de personnes aujourd'hui compostent en ville ?
On met la barre à peu près à 1%.
Ah oui.
Environ 1% des personnes qui disposent soit d'un composteur chez eux, un lombricomposteur, soit d'un site où ils peuvent apporter leurs déchets organiques.
Et de plus en plus, c'est intéressant de voir qu'il y a des composteurs donc en bas des immeubles.
C'est ça. Parce que dans les zones pavillonnaires, ça va. En général, les gens, ils ont un petit jardin, ils peuvent faire ça. Sinon, on a aussi le compost individuel, le lombricompost individuel qui va dans les appartements. Mais c'est beaucoup moins riche que le compostage en pied d'immeuble ou le compostage partagé, parce que celui-là, il a l'avantage d'apporter en plus du lien social, quoi, la réduction de déchets.
On est à la fois donc acteur de cette diminution de la pollution, on est évidemment créateur de matière organique après, donc de ce fameux compost, et puis aussi c'est un projet intéressant socialement, c'est-à-dire qu'on crée des liens avec les voisins.
Exactement, on se rencontre, on discute, on décide de où est-ce qu'on va installer le composteur, on décide si ça gêne pas, s'il y en a qui ont des a priori dessus, on leur explique qu'est-ce que c'est qu'un composteur, comment ça fonctionne. Et on leur dit tout simplement aussi que quand c'est bien mené, il n'y a ni odeur, ni moucheron, ni toutes ces choses désagréables que les gens s'imaginent qu'il y a. Et puis après, on parle de tout un tas de choses. On parle des enfants, on parle de la nutrition, on parle de qu'est-ce qu'on mange, on parle des recettes de cuisine, on parle du petit espace commun qu'on pourrait transformer en potager. Voilà. On a plein d'idées.
Donc, le composteur d'un côté, le lombric de l'autre, puisqu'il est dedans, c'est quasiment un site de rencontre, et ça, c'est assez formidable. Que dit la loi sur le sujet ?
La loi, elle prévoit, en France, à partir de 2025, obligation de tri à la source de tous les déchets, dont le déchet organique. Et cette loi, elle sera avancée de 2 ans, parce qu'en Europe, c'est à partir de 2023 qu'il y aura cette obligation.
Il y a quand même beaucoup de travail, parce que comme vous disiez qu'il n'y avait que 1%, on estime seulement 1% des gens en ville donc qui compostent, il va vraiment falloir s'y mettre là. Donc.
Tout à fait, mettre les bouchées doubles. Et ce qui est très drôle, c'est un peu le décalage qu'il y a entre le citoyen qui est prêt, qui a envie déjà de valoriser ses déchets organiques parce que de plus en plus il est sensibilisé à ses problèmes d'environnement, parce que il va vers des mouvements comme le zéro déchet, comme l'achat en vrac, des choses comme ça, et les politiques qui sont encore frileux par rapport à ça, parce qu'il y a aussi des problèmes techniques, il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'on ne sait pas où les mettre, parce que si on les met dans des espaces publics comme les parcs, ça va être autant de pelouse en moins. Donc il y a tout un équilibre à trouver entre cette envie du citoyen et le possible de ce qui peut être fait en ville.
Oui, parce qu'en fait, le citoyen, il a quand même besoin d'avoir des bacs, d'avoir des lieux pour pouvoir déposer tout cela. Donc, qu'est-ce qui vous rend optimiste et en fait, pourquoi vous êtes intéressée à ça, vous, Isabelle ?
D'abord, j'ai vécu à la campagne. Pendant longtemps, j'ai fait un compost qui n'était pas un vrai compost, qui était le pourrissoir au fond d'un trou. Ensuite, j'ai fait une formation de maître composteur et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques étapes à suivre pour obtenir du vrai compost bien fait. À l'occasion d'un retour sur Paris, je me suis dit que j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans et c'est le gisement qu'il y a autour de ça. Moi, j'ai participé à l'installation d'un compost de quartier dans le 13e arrondissement. C'est un des plus gros composteurs de quartier de Paris qui regroupe 200 foyers qui viennent apporter leur bio-so 2 fois par semaine. Et j'ai été émerveillée par cette deuxième dimension qui est tout ce qui est autour du lien social qui a été apporté autour de ce compost au-delà du déchet organique et du recyclage du déchet organique.
Isabelle Gaton, on va faire une action en creux, ce qui va nous permettre de voir ce qu'il ne faut pas faire. Que dois-je faire pour louper mon compost ?
Pour louper le compost, il suffit de ne pas avoir de matière brune, matière carbonée. Si vous avez que des déchets de cuisine et que vous ne rajoutez pas de broyat, donc des petits morceaux de bois, des petites branches, etc., vous avez de fortes chances d'avoir justement le fameux pourrissoir qui va se mettre à sentir mauvais parce que ça va être une décomposition anaérobie et qui va être un peu liquide, qui va avoir des jus, qui va avoir des insectes et qui sera loupé.
La presse, étant extrêmement modeste, termine parfois aussi quand même dans ses bacs. C'est-à-dire qu'il faut mettre découper des bouts de journaux, des bouts de carton ?
Alors, pas les journaux. Les journaux, ils iront dans les bacs à papier où ils seront recyclés. Enfin, les journaux, journaux et les magazines. On va utiliser dans le compost les boîtes d'œufs, par exemple, en carton, au fond d'un bioseau. Donc ça va bien pour éponger. On va pouvoir mettre tout ce qui est mouchoir en papier. On va pouvoir mettre les petits rouleaux de papier toilette en carton découpé en petits morceaux. Les petits sachets, lorsqu'on va faire le marché, les sachets en papier. Et tout ce qui est thé, café avec le filtre. Ça passe bien.
Mais les mouchoirs, même si on a eu un gros rhume, c'est pas grave, ça, non ?
Tout dépendra du composteur utilisé. Si c'est un petit lombricompostage, on va pas le mettre. Parce que là, c'est plus de l'élevage de vers, il faudra faire attention à ce qu'on met. Si c'est un gros composteur de quartier qui monte en température et qui dépasse les 60 degrés, où le compost va être hygiénisé, là on peut.
Et après, il faut mélanger de temps en temps ?
Régulièrement. La bonne recette pour un composteur, c'est donc un mélange équilibré entre les déchets verts et humides et les déchets bruns et secs. Et il faut qu'il y ait de l'air et de l'eau. L'eau, en général, on n'a pas besoin de la rapporter parce qu'elle est déjà présente dans les épluchures de fruits et légumes qui sont composées à 80% d'eau. Et à chaque fois qu'on fait un gros apport, on demande de brasser la cellule d'apport.
Alors moi, je connaissais un voisin de mon grand-père dans le Tarn et qui disait « Bah moi, je vais faire un petit pipi dans le composteur parce que rajouter de l'azote, ça peut pas y faire de mal. »
Alors ça, en ville, ça se fait pas beaucoup.
Oui.
À la campagne, éventuellement, mais en ville, ça se fait pas beaucoup. Et ça présente un intérêt assez moindre.
Donc on vous le déconseille. Ce sera donc le conseil du jour. Et donc, tous au compost du 30 mars jusqu'au 14 avril, la 6e semaine nationale du compostage de proximité. Merci, chère Isabelle Gaton. Et donc, je le rappelle, avec le réseau Compost Citoyen, vous avez tous les éléments sur le site de CO de Mon Amour. Et vous embrassez évidemment un lombric sur la bouche pour nous. Merci à vous, Isabelle. À bientôt.
Merci, au revoir.
Et dans 3 minutes 30, eh bien, je vous emmène à Saint-Denis, zone sensible. Vous allez comprendre pourquoi, de la poésie, de la nourriture. Bref, restez avec nous, ce sera avec Olivier Darnay et je sais que ça va vous plaire.
Le soir, déplie ses voiles sombres, enveloppe. Les trottoirs et les bois. Et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Infidèle égaré sur les pavés. De nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux, les perdre silencieux. Au fond de nous, l'étincelle. Dans le cas orageux, cet éclair dangereux, délire silencieux. Dans ce théâtre. entre ton bras, griffes sur le pavé, les cœurs givrés. Au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux. Cet éclat vénéneux des perdants silencieux. Au fond de nous, l'étincelle dans le calme orageux. Cet éclair dangereux. Au fond de nous, l'étincelle.
L'étincelle sur France Inter, l'étincelle de vie, l'étincelle de la rencontre, l'étincelle d'envie, c'est tout ce que l'on vous souhaite.
Regardez une petite abeille.
CO2, oh, mon amour.
Petite abeille. Oh, petite abeille.
Sur France Inter.
Eh oui, on va en retrouver des abeilles, vous allez comprendre. Je vous emmène, la semaine dernière, je vous le disais, on était avec Lionel Daudet. Grand merci d'ailleurs aussi pour tous vos retours avec cet homme et cette montagne inspirée donc qu'il habitait. Et là, on redescend, on change complètement d'univers. On est en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis.
Wow, voilà, bonjour les filles. Bonjour les filles de Saint-Denis, là. Combien d'abeilles, Olivier Darnay?
Voilà. À peu près 1 million d'abeilles.
1 million d'abeilles, d'accord. Et plus celles qui sont sur le toit de la mairie de Saint-Denis. Oui. Moi, je les ai rencontrées il y a 19 ans.
Oui, ça fait depuis 96, ces histoires de pollinisation de la ville. Et effectivement, il y a des abeilles sur le toit de la mairie de Saint-Denis depuis 2000. Et aujourd'hui, on a 120 ruches à peu près sur Saint-Denis.
Et alors là, nous sommes sur un lieu donc, qui n'est pas exactement à côté de la mairie de Saint-Denis. C'est vrai que c'est un très grand territoire. Donc, nous sommes avenue de Stalingrad. Et où sommes-nous exactement?
On est sur la zone des Tartres, sous un avion. Et qui est un lieu de patrimoine parce que c'est devenu la dernière ferme du 19e siècle encore en activité aux portes de Paris. C'est une ferme qui a toujours été une terre de production de légumes et c'est devenu aujourd'hui finalement un triste vestige de ce passé maraîcher.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a maximum 3 jours d'autonomie alimentaire en Ile-de-France aujourd'hui.
Ah oui, alors nous avec nos petits bras, on est juste sur 1 hectare de production alimentaire. Mais c'est déjà un lieu de résistance et effectivement, ça devient un lieu de transmission.
Un lieu qui va réouvrir tout à fait prochainement, donc ce sera le 6 avril prochain, Saint-Denis, la Rouge, l'Ouvrière, Saint-Denis aux 135 communautés différentes. Le dit d'ailleurs Saint-Denis, avant de passer son CAP de Saint, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a déposé sa tête en l'an 250, justement, là, sur ce qu'allait devenir donc Saint-Denis. Mais il avait aussi sa binette à la main, et oui. Et c'est pour ça que ça fait partie maintenant de la ceinture maraîchère de Paris, ce Saint-Denis qui devint donc nourricier. Puis après, il a fallu loger les gens, donc on a saupoudré de parkings, de supermarchés, vous connaissez la suite. On a asphalté les carottes et les poireaux, mais un coin de terre a toujours résisté, celui-là. Et donc on est en gros dans la dernière ferme du 19e siècle, hein, toujours en activité, vous avez plus de 3 hectares et demi, en permaculture, au nord de Paris, une plaine de vertu à 500 mètres du métro, et un homme, alors... engagé, poétique, plasticien, donc à l'origine, donc artiste, Olivier Darnay, qui nous a créé le miel béton, parce que c'est quand même le premier, hein, il y a une vingtaine d'années, à avoir fait une place aux abeilles en ville, hein, sur le toit de la mairie. Et donc, nature, culture, nourriture, c'est aussi le créateur, Olivier Darnay, du Parti Poétique.
Parti Poétique, c'est un collectif artistique que j'ai monté en 2003. Ouais. Et l'idée, c'est pas tant de transformer un collectif d'artistes en collectif de maraîchers. Ça fait 20 ans en fait qu'on travaille en collaboration avec les abeilles sur un lien entre art et environnement. Puis là, depuis 3 ans, il y a quelque chose qui nous chatouille. C'est la façon de considérer l'alimentation comme un fait culturel majeur. Et du coup, depuis 3 ans, on travaille plutôt sur quelque chose qui est une sainte trinité entre nature, culture, nourriture. Voilà, c'est ça qui nous anime aujourd'hui. Et on considère que la ferme, du coup, devient un espace politique privilégié.
Et il y a aussi le fait que ce soit en banlieue, que ce soit à Saint-Denis. Et là aussi, ça veut dire quelque chose.
Bah, des fois, on se demande qui est en banlieue de qui. C'est-à-dire qu'on se demande des fois si c'est pas Paris qui est en banlieue de Saint-Denis. C'est-à-dire que c'est... Non, mais c'est un territoire tellement amplifié.
Et Paris qui est la banlieue de la province.
Bah, je pense, oui. C'est-à-dire qu'on des fois même, on est des fois en banlieue des idées. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse en étant ici, d'abord, c'est on n'a pas le choix. C'est-à-dire que j'y suis né. Donc comme ça, c'est réglé. Après, on décide d'y rester. Et moi, en l'occurrence, ce qui m'intéresse ici, c'est la notion de territoire amplifié. C'est-à-dire qu'en fait, la Seine-Saint-Denis, puis Saint-Denis, d'une certaine façon, qu'en est une des centralités, ce qu'elle amplifie, c'est à la fois les difficultés et les solutions. Mais les solutions, elles sont du côté, par exemple, des 135 nationalités qui font Saint-Denis, quoi. Certains considèrent que c'est une difficulté d'avoir à gérer autant de pluriel. Moi, je considère que c'est une chance.
Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez pratiquement 135 variétés, ou 140 variétés ici, je crois, entre les légumes, les agrumes, etc.
Et les humains. C'est-à-dire qu'on considère que tout est un grand tout. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'un côté la biodiversité, et puis d'un autre côté la biodiversité culturelle. On considère que c'est un ensemble. Et cette biodiversité culturelle, elle est aussi enrichie d'une biodiversité culinaire. C'est-à-dire que l'interpellation qu'on fait des fois à certains chefs, et notamment à Alain Ducasse qui s'est associé au projet qu'on monte ici à Zone Sensible, c'est le fait qu'on a le sentiment des fois que la haute gastronomie ne peut pas franchir le périphérique. Ce qui nous chagrine, parce qu'il n'y a quasiment pas de restaurants étoilés en banlieue, alors que c'est un territoire de production, de nourriture, de mangeurs, et c'est ça qui va nous intéresser ici, c'est de considérer à la fois le sol, l'assiette et le paysage comme un territoire de biodiversité à partager. Ouais.
Alors ça, vous ne le voyez pas, mais nous, on est entouré de plein de centaines de milliers de petites abeilles, donc d'étoiles, elles sont là.
C'est comme des larmes de miel dans la lumière, quoi. Elles attrapent ça depuis 20 ans, mais finalement depuis 80 millions d'années, parce qu'elles étaient ici bien avant la ville, quoi.
Et ces insectes vous ont raconté quelque chose. Elles ont commencé à murmurer à l'oreille d'Olivier Darnay, et c'est là aussi que vous avez eu une espèce de révélation.
En fait, elles ont, je ne sais pas si je peux le dire à mon grand âge, que je n'ai pas encore, mais elles ont quand même un peu changé ma vie. C'est-à-dire que moi, j'étais producteur d'images dans l'espace public, j'intervenais comme un plasticien, un faiseur de signes, et je me suis retrouvé du jour au lendemain à être un faiseur de miel, qui n'est rien d'autre qu'une image de la ville, sauf que c'est une image de la ville qui se mange. Donc j'ai pu du coup proposer à mes voisins de manger la ville qu'ils habitaient, et ça a tout changé.
Oh, qu'on est bien là. Et alors, on va quand même poser le décor autour de nous. Des tours, pas forcément de 25 étages.
Non.
Voilà. On est sur quel coin de Saint-Denis ?
On est à la banlieue de Saint-Denis, c'est-à-dire qu'on est à la limite de Stein, Pierrefitte et Saint-Denis. Donc on est sur un lieu qui historiquement s'appelait la Plaine des Vertus, qui était une plaine légumière. On avait des laboureurs de légumes qui, au 19e siècle, nourrissaient les Parisiens. Ils venaient de là, légumes. C'était vraiment un circuit très court. Et ça allait, voilà, de Stein, Pierrefitte, Saint-Denis, jusqu'à Aubervilliers. Et puis, le Grand Paris a fait son travail. Et puis, avant même la pression foncière des années 50, a fait que d'étape en étape, les maraîchers, pour eux, c'était plus intéressant presque de vendre leurs parcelles que de vendre leurs légumes. Puis Rungis est arrivé, il y a eu la cité des 4000 à la Courneuve, et à un moment, les maraîchers n'ont pas fait le poids. Donc, ils sont passés de 500 familles de maraîchers au 19e siècle à plus qu'une quarantaine dans les années 60, et plus qu'un en 2016. Il s'appelait René Kersanté, il est toujours vaillant. Et en 2016, il avait 76 ans. Et la ville, en 83, avait acheté la ferme pour préserver le maraîcher. Donc c'est un acte politique, finalement, cette histoire-là. Hein.
Complètement, parce que pour résister aux promoteurs, c'est pas de la tarte.
Exactement. Donc c'était assez radical, puisque du coup, la seule façon de protéger l'exploitant, c'était de faire en sorte que la ville le protège d'une certaine façon. Et ensuite, il y a eu 4 générations de maires communistes qui ont maintenu ce protectorat, finalement. Ouais. Et lorsque René a décidé de prendre sa retraite à 76 ans, le maire s'est posé la question du devenir de cette ferme. Et donc la ville a lancé un concours.
Oh, ah bah alors là, on a fait de la récupération de l'onduline. Hop, on rentre dedans. Qu'est-ce que l'on voit, effectivement ?
C'est une chambre de pollinisation. C'est-à-dire qu'on a récupéré d'anciens silos agricoles qui stockaient du grain. Et nous, on va y installer 1 million d'abeilles. On va faire en sorte que ce lieu de stockage stocke un butin. Hein, parce que dans le mot butinage, il y a butin. Donc nous, on fait du butin, mais on le partage.
Mais alors, attendez, que je comprenne bien. Parce que là, on a une arène.
Une arène pour reines.
Une arène pour les reines. Et là, il va y avoir des ruches.
On va installer une douzaine de ruches. Donc à raison de 80 000 abeilles par ruche. Selon les organisateurs, très vite, ça fait du chiffre. Et on a quelque chose qui va être une sorte de cheminée de pollinisation, ouais, qui va du coup cracher ces petites abeilles qui vont considérer ce lieu, cette arène, comme leur centralité. Elles vont rayonner depuis cet endroit-là. Voilà. Et donc, ça va être un rucher, ce qu'on appelle un rucher communément depuis le Moyen-Âge. Donc, c'est un ensemble de ruches, à ceci près que celles-là ne transhumeront pas. Elles vont polliniser sur 3000 hectares autour d'ici.
Mais en même temps, les habitants de Saint-Denis, peut-être même moi d'ailleurs, on peut venir s'alimenter.
Oui, c'est un peu l'objet. Alors, ce qui est troublant aujourd'hui, c'est que la véritable centralité du quartier, c'est pas nous, hein, c'est pas la ferme. La véritable centralité du quartier, c'est l'enseigne là-bas avec un M jaune de McDonald's. Elle est là la centralité.
Ah,
parce
c'est dingue, ça joue absolument.
On a un voisin magnifique.
On a tout le monde là.
On aurait voulu, on l'aurait pas pu. Mais disons qu'il était là, on n'a pas réussi à les enlever. Et donc, ils font partie du paysage. Et quand je dis qu'ils sont la centralité, c'est qu'effectivement, dans un lieu comme celui-là, qu'on appelle la zone des Tartres, tristement, ces endroits de restauration deviennent des lieux de rendez-vous. Ouais. Et la ferme, finalement, je me rends compte que peut-être même au-delà de ce que l'art a réussi à faire, mais d'une certaine façon, la ferme répond à des sujets et des questions que l'art contemporain n'arrive pas à résoudre. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est de générer des points de connexion entre les deux. C'est pour ça qu'on a considéré que Zone Sensible était plutôt un centre de production d'art et de nourriture, et que le principe de ce lieu, c'est pas seulement de produire des légumes, bien sûr, c'est d'être à la hauteur de cet engagement. Là, on a commencé par recruter Franck Pontier, un chef maraîcher, plus une équipe, et maintenant, ce qui nous importe, c'est de mettre en résidence pas seulement des légumes, mais aussi des cuisiniers et des artistes. Et donc, on a créé une bourse d'art contemporain pour justement mettre en place les conditions d'une résidence ici pour des artistes.
Oh, bah alors, on a des corbeaux qui s'intéressent aussi. Enfin, le corbeau est opportuniste, de toute façon.
Donc. Alors, le corbeau déplace les doses de mayonnaise et de ketchup de McDonald's jusqu'à chez nous. Quoi.
C'est-à-dire qu'il ramasse les déchets et vous les balance chez vous.
C'est sympa, oui.
Non, c'est pour vous faire découvrir un autre type de nourriture, c'est ça?
Ouais, puis on va surtout inventer des recettes de pâté de corbeau, ou je sais pas, on va trouver un truc.
Oui.
Hein, le corbeau, il va finir en pâté.
Olivier Darnay, donc il y a ce titre, Zone Sensible. C'est aussi la sensibilité des uns et des autres, celle des abeilles, celle des humains, celle des artistes.
Ce que j'ai toujours trouvé triste, c'était la caricature désarmante de certains journalistes à considérer une zone sensible comme une zone de danger, voilà, une zone à risque. Ce qui, a priori, quand même, est une contradiction incroyable. Si je vous appelle, si je vous considère comme une zone sensible, j'en suis à deux doigts d'avoir envie de vous caresser. Donc, une zone de sens et de sensibilité, c'est a priori ce qu'on a de mieux à proposer. Et donc, voilà, un peu comme un contre-pied, un contrepoint à la façon de considérer le sensible comme un danger, hein, comme une zone à risque. Nous, on a le sentiment qu'une zone sensible, c'est peut-être la plus belle façon d'imaginer une hospitalité. La réalité économique des gens du quartier fait que ils ont bien un certain nombre de questions à résoudre pour arriver à la fin du mois.
Bien sûr.
Et donc, la plus-value d'un légume bio ne se pose pas dans un quartier comme celui-là. Donc, on doit, en fait, en gros, on peut évidemment, comme c'est le cas, travailler avec des chefs parisiens, des chefs étoilés, c'est formidable. Ça finance d'une certaine façon un peu une partie de notre action au Robin des Bois. Hein. C'est-à-dire qu'on va chercher les moyens là où ils sont et on fait en sorte d'obtenir une sorte de clé de répartition et qui permet, en gros, alors à chaque fois qu'on livre des légumes à des chefs parisiens, on leur met une taxe qui permet en fait de financer des paniers solidaires, c'est-à-dire qu'ils payent 3-4% en plus, et ça permet en fait de financer la gratuité de paniers qui permettent du coup à des gens du quartier qui n'ont pas les moyens de manger un panier de légumes quand on s'inscrit à une AMAP à 15 euros le panier. C'est des choses qui sont quand même compliquées à sortir dans une fin de mois, et donc on arrive du coup par cet intermédiaire-là à financer par des restaurants étoilés des légumes qui irriguent un peu le quartier. Ouais.
Terre, nourriture, pragmatisme. Donc, on va continuer ce voyage avec Olivier Darnay. Non, parce que c'est quand même intéressant comme discours avec cette jolie pointe de poésie. Juste après qui ? MC Solar.
Yeah. Yeah. Autant des jupes culottes, j'étais cool à l'école. Manger à la cantine, y avait pas de vache folle à la télé. J'étais fan à Dayato dans la rue. C'était l'aiguiseur de couteau. Le must à l'époque était le pas de bref. Folon, Gilles Villeneuve et Michel Polnareff. Créateur d'avant-garde, avant Gautier, je choquais. Les Blue Jeans avaient quatre ourlets. Tu peux me nommer rappeur nostalgique, néo-romantique, aux actions bucoliques. Avant pour les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent. Les temps changent.
Les temps changent.
Les temps changent. Mais j'aurais dû sécher pour éviter l'amiante. J'ai des potes de toutes sortes, paix à 100 bangs. On se voit après les cours et je progresse au ping-pong. Dans les soirées rap, j'attaque freestyle au mic. Mountain back l'obstacle avec une paire de Nike. J'avais dans ma classe des fanatiques d'Inès. Au café PMU, c'était plus Pierrette Bresse. Je te parle du temps, du salut dans la rue, de la simplicité, mais ça n'existe plus sans blague. Les gens s'affichent comme des tags, on drague, même avec un phone portable.
Les temps changent.
Les temps changent.
Les temps changent.
Les temps changent.
comme Pérec que je me souviens de l'académie des neufs et des temples égyptiens. Je n'ai pas vu le Caire depuis la mort de Sadat. Si tu comptes en années, tu comprendras que ça date. Sous les aides pickpocket, chez les kangourous, des potes, des bonnes steaks pour le barbecue. Mais le monde est complexe, j'ai le typex. Comme tout le monde, je reste perplexe. Je me rappelle encore de mon petit quartier nord. Nous faisons des tas d'efforts pour nos corps par le sport. C'est fini, y'a plus d'athlètes sur les pistes. On assiste à des compètes de 8-6. Les temps changent.
Les temps changent. Les temps changent.
Mais c'est ça qui est bien, c'est MC Solar, il peut faire rimer complexe avec Tipex. Mais oui, c'est comme ça, les temps changent, c'est en 1997. Il change fort heureusement, ça y est, ça commence à remonter, cette notion d'écologie, de nourriture. On poursuit le voyage.
Non, non, Margot, tu arrêtes avec la gada. Profite un petit peu, regarde un peu la nature, là, les moutons, les trucs.
CO2, mon amour, Denis Chessoux.
Toujours dans cette zone sensible qui va rouvrir ses portes, ce sera le 6 avril, je vous le redirai, avec donc, on va dire, on est à deux pas du métro, je vous le rappelle. Nous sommes dans le quartier de la Mutuelle, nous avons des petits pavillons, des petits jardins, des espaces à soi, et puis aussi donc des grands ensembles, on l'a compris, vous avez le McDo, la mosquée, le campus de Paris 8 qui est pas loin, les archives nationales, et puis donc cette ferme de 3 hectares et demi. Avec, on va dire, une terre ouvrière, mais avec de moins en moins d'ouvriers, ceux ou celles qui sont ouvrières, bien évidemment, ce sont les abeilles qui sont des réfugiés chimiques, avec ces lombris qui, eux, sont des réfugiés de l'asphalte, des abeilles du sol. Voilà, allez, on y retourne aux abeilles, oui.
Moi, c'est ce qui m'émeut le plus, hein. C'est pas de faire du miel, c'est de produire de la vie. Et chez les apiculteurs, je trouve que la plus belle chose, c'est finalement de produire un essaim d'abeilles. Et lorsqu'on a un moment émouvant, finalement, qui est de produire sa propre nourriture dans son environnement, qui est quand même un réflexe un peu oublié, et qu'on se rend compte que cet émerveillement-là, on est capable de le partager avec un gamin qui est dans une culture hors sol, hein, parce que pour le coup, ici, les enfants du 9-3, on peut pas dire qu'ils aient d'habitude à une relation végétale ou une relation animale. Ils ont pas forcément eu un grand-père qui avait un potager, qui avait un jardin. Et donc on est dans un moment de transition où ce rendez-vous n'a peut-être jamais eu lieu. Un gamin de 11 ans qui arrive ici et qui considère au début que la terre c'est sale. Voilà. Et on a du coup un travail qui se fait assez vite d'ailleurs. En 2-3 séances, les enfants comprennent assez vite que d'une ce n'est pas sale et qu'il y a aussi un merveilleux dans le sol.
Alors ce qui est formidable ici, Olivier Darnay, mais c'est aussi votre nature, c'est que après le constat d'indignation, après la colère, vous transformez ça en action. C'est votre truc, vous.
Moi, je considère que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est plus... Je pense que les diagnostics sont faits sur la question environnementale.
C'est fait.
Voilà,
oui.
On sait qu'on est déjà rentré dans le mur. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le passage à l'acte. Voilà, ça va être la façon grandeur nature de montrer quelque chose comme une énergie qu'on va bien devoir investir dans autre chose qu'un désespoir. C'est-à-dire que on sait que c'est à peu près foutu, mais en même temps, dans cette version du foutu, moi, j'ai considéré que Zone Sensible était une opportunité, comme une page blanche, de considérer un hectare comme un espace de possibilité d'invention. Voilà. Il va bien falloir réinventer quelque chose qui soit un modèle autre. Et donc ça passe par quoi ? Alors nous, on a le sentiment que un des plus beaux terrains, c'est peut-être celui de l'art et de la culture, parce que finalement, c'est un terrain hors champ. Il entrecoupe tellement.
C'est quand même une des meilleures façons de réunir les femmes et les hommes. Hein.
Je pense. Et donc moi, je considère qu'on doit passer à quelque chose qui est grandeur nature. Je pense que la ferme, c'est peut-être un très joli moyen de passer à l'acte. Et ce qui m'intéresse, du coup, c'est d'associer l'autre dans une façon, non pas uniquement d'être dans une tristesse d'expertise, mais dans une façon d'avoir de réapprendre, parce qu'on a quand même beaucoup oublié, quelque chose qui est fondamental, en l'occurrence se nourrir dans son environnement, c'est quand même pas rien, et que très vite, dans un moment de crise, l'alimentation va nous apparaître à nouveau comme une priorité.
Ah, ça va remonter immédiatement à la surface.
Ouais, très fort.
Ah, nous avons de l'oignon cette fois-ci, il est jaune, nous en avons encore un autre. Hop, les salades sont derrière, les poireaux sont déjà sortis, bah oui quand même. Les choux,
fèves,
petits pois, cardons,
oui.
Moutarde, des aromates, des oseilles, des carottes, du légume feuille, du légume racine et des fleurs.
C'est pas mal, et puis on a de la légumineuse aussi, hein. C'est vraiment important ça, pour les protéines.
Ce qui est amusant, c'est que les légumes du 19e siècle étaient des légumes pour le ventre. C'est-à-dire qu'on faisait du chou des vertus, qui était un légume énorme, qui était fait pour plusieurs repas, pour plusieurs personnes. Pareil pour les oignons, donc on cherchait du volume, parce qu'on mettait plus facilement du légume dans nos soupes que de la viande. Et donc les légumes des vertus, sont des légumes, voilà, qui sont des menus qui rentrent dans le menu ouvrier, quoi, tout simplement. Et c'est ce bon sens-là paysan qu'on doit à un moment retrouver. Alors il y a des choses un peu sophistiquées qu'on plante ici pour des chefs qui ont besoin à un moment de faire de l'orfèvrerie, mais on doit aussi nourrir les ventres. Quoi.
On est pas bien là ?
On est bien !
Ah qu'on est bien !
Oui, c'est quand même assez courageux de la part d'une mairie parce que ça a quand même une certaine valeur. Hein,
ah oui, oui, oui. Pour certains promoteurs, ça a même un prix, mais on considère que finalement, la valeur de cette ferme n'a pas de prix. C'est ça qui est quand même drôlement intéressant. Ouais. Et du coup, pour essayer d'équilibrer les territoires, moi je trouvais injuste qu'en Seine-Saint-Denis, on n'ait pas de place de l'étoile. Donc, du coup, quand j'ai dessiné le jardin,
ah oui,
j'ai fait cette rosace.
Ouais. Ah, c'est joli.
On a un lieu où, depuis le centre de zone sensible, on arrive avec un ensemble de routes qui convergent à avoir quelque chose qui explique la permaculture, pour Franck Pontier, notre chef de culture, et qui permet depuis un point central d'expliquer la rotation des cultures, des légumes, etc.
Bon, la terre est bonne. On va aller voir Franck. Hein. Ouais. Allez, hop.
Ah oui, la terre est bonne. La terre est bonne parce que ça n'a jamais cessé d'être une ferme. La terre est noire après une pluie. C'est une couleur incroyable. Une des tristesses a été que René Kersanté a pensé qu'il fallait être à son tour l'agriculteur de son époque. Donc à un moment, il a mécanisé son exploitation. Et puis de la diversité légumière qui était celle de sa grand-mère et de sa mère, parce que c'est quand même trois générations de maraîchers bretons qui occupent cette ferme, il a pensé qu'en mécanisant sa ferme et en orientant sa ferme en monoculture vers les salades, il allait trouver un modèle économique. Donc René faisait 1,5 million de salades chaque année sur cette ferme. Mais sauf qu'il avait... Il avait oublié 2-3 équations, comme celle par exemple qui consistait à faire en sorte que le prix de sa salade n'était pas fixé par le producteur mais par la centrale d'achat.
Bah oui.
Donc il vendait chaque année à perte. Et évidemment qu'après, en termes de biodiversité, on a un sol qui était retourné 4 fois. Donc les vers de terre, à un moment, on en a eu marre et ils ont eu une petite tendance à disparaître. Donc là, ils sont en train, en 1 an et demi, de revenir. C'est assez émouvant hein, parce qu'ils étaient là, en attente, en fait.
Bonjour Franck.
C'est ça ?
Bonjour micro.
Bonjour micro.
Absolument. Enchanté. Bonjour Franck Pontier.
Racontez-nous, s'il vous plaît, quand même, la diversité que l'on peut produire ici, parce que c'est toujours assez étonnant. La terre, maintenant, elle est bonne.
Ouais.
Nos petits lombrics, nos carabes sont là, ils sont en pleine forme, etc. Et tout. Et donc, l'envie, c'est quoi ?
Bah, c'est quand même, l'idée, c'est quand même d'avoir le plus de légumes possible, parce que, bah, comme toujours, hein, un écosystème, c'est constitué quoi, d'une multitude, et de que ce soit des animaux ou des végétaux. Donc, plus il y a de différentes espèces, et bah, plus on va attirer de nombreux d'insectes, que ce soit d'insectes, de bactéries qui seraient décomposeurs ou qui sont toujours là au sol. En fait, c'est la diversité qui fait la richesse.
Ouais.
Donc, je fais le maximum, justement, de diversité pour créer le maximum de richesse.
On dit très souvent, d'ailleurs, aussi que plus un milieu est diversifié, plus il est riche et plus il sera en équilibre.
Il sera en équilibre
lui-même, d'ailleurs.
C'est bien ça. Il sera bien en équilibre, justement. Il fait de l'automédication. Hein.
Ouais.
Et le but, c'est de, justement, en permaculture, c'est de réussir à créer cet équilibre de l'écosystème.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette zone sensible avec la possibilité, l'ouverture, la liberté que vous avez ?
C'est le défi, justement, de réussir à faire de la biodiversité en plein cœur. Porte de Paris. Aux portes de Paris, on est justement sur un département de la Seine-Saint-Denis où c'est qu'on est en diversité, qu'on voit exactement où c'est qu'il y a soi-disant plein de problèmes, etc. Mais c'est grâce à cette diversité, justement dès l'instant où c'est qu'on lui donne la chance, et bien c'est là où c'est que je m'éclate et c'est là où c'est justement que je partage mon savoir. Et justement, c'est pour recréer cette cohésion qui soit humaine et qui soit surtout en lien avec la nature. Quoi.
Olivier, avant de se quitter, on va quand même dire au revoir aux abeilles. Hein. On va boucler la boucle, elles sont là.
Mais il faudrait se rapprocher parce que finalement, on se rend compte à notre corps défendant que c'est pas si dangereux que ça.
Bah non.
Tiens, j'en ai une dans le cou en même temps. Attends.
Oui, oui, j'en ai une sur les cheveux, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant au milieu de ces abeilles, au milieu de cet hectare de terre?
Ben, qu'elles restent avec nous, hein, pour le meilleur et pour le pire, et avec notre esprit.
La conduite à tenir là, dans ce genre de cas, parce qu'on est quand même maintenant bien cerné par toutes les abeilles.
Oui. Sans froid, safe.
Self, donc tout va bien. Donc c'est parfait pour se dire au revoir, parce qu'on va être self jusqu'au bout. Mm-hmm. Au revoir Olivier Dardenne.
Au revoir Denis.
Cette ferme, cette zone sensible, donc, rouvre au grand public le 6 avril prochain et il y aura comme parrain, quand même, excusez du peu, l'ami Gilles Clément qui, évidemment, adore ce lieu parce qu'il y a toute une histoire. Vous voyez, on a besoin d'histoire. Ben là, vous avez un véritable récit humain mêlé avec les abeilles, avec les lombriques, avec cette nourriture. Je remercie pour son mixage Jean-Philippe Jeanne, Camille Blanès qui a réalisé, qui a colorisé donc ce reportage. Puis je vous signale que sur le Twitter chez Sou, vous avez alors à la fois une vidéo sur le compostage dont on a parlé au début. Vous aurez aussi une vidéo avec Olivier Darnay. Donc voilà, Twitter c'est chez Sou. Et dans quelques instants, et ben Fernando Solanas. Alors là, ça va être une autre forme d'agriculture. Ça va pas être le même pastis, hein, comme on dit. Pas du tout. On va partir en Argentine dans des grands champs de soja. Pas pareil du tout. Choisi par Thierry Dupin, Song for Winners sur France Inter, Nick Waterhouse, donc chanson pour les vainqueurs, pour les winners, ouais. Et on a pris un peu d'avance parce que 6 avril, donc c'est l'ouverture, vous l'avez compris, de cette zone sensible à Saint-Denis. Et le 10 avril, eh bien, ce sera le film qui s'appelle Le Grain est d'Ivraie, donc signé Fernando Solanas, sénateur. Argentin et aussi bien sûr cinéaste, grand documentariste, et qui là donc revient avec un film. Vous allez voir, c'est pas exactement le même type d'agriculture. On n'est pas du tout dans l'automédication de la terre. Non, c'est l'inverse, c'est la grande dévastation merveilleuse. Et alors tendez un petit peu l'oreille parce qu'en fait j'ai enregistré Fernando Solanas hier. Il nous fait donc l'honneur, le plaisir de parler en français, mais il faut quand même tendre un tout petit peu l'oreille. Et qu'est-ce que l'on pourrait se dire? Que quand on aura décimé la dernière forêt tropicale pour y planter du soja, on se rendra compte peut-être que l'argent ne se mange pas.
Nous sommes dans le désert vert du soja. C'est la culture la plus abondante en Argentine, le soja. Vous avez des millions d'hectares de soja qui couvrent les terres les plus fertiles. Et pour ces maudits haricots, eh bien, l'Argentine s'est vendue, a dépeuplé son territoire, a détruit ses écosystèmes et a ruiné sa biodiversité. Il n'y a plus de vie ici, plus d'insectes, de faune, de papillons. et les oiseaux ont aussi disparu. Bienvenue donc en Argentine, 44 millions d'habitants. Bonjour à vous Fernando Solanas.
Bonjour,
vous êtes le réalisateur du Grain et de l'Ivraie qui va sortir le 10 avril, donc sur vraiment ce désastre aujourd'hui du soja. Et on peut dire que l'Argentine a été en fait un véritable porte-avions du soja, oui, presque dans le monde.
Oui, elle était le premier pays de l'Amérique du Sud en légaliser l'introduction de la soja transgénique.
En donnant d'abord gratuitement des graines aux agriculteurs.
Mais oui, avant, les universités et aussi tous les agriculteurs gardaient les grains pour la prochaine récolte. On avait des variétés de maïs et de plusieurs céréales originaux du territoire.
Et par hybridation, donc les hommes ont amélioré donc ces graines.
Tout à fait.
C'est-à-dire que l'on a remplacé la qualité par la quantité et l'agriculture par l'agro-industrie.
Tout à fait. Aujourd'hui, à l'Argentine, vous ne trouvez pas une agriculture avec des agriculteurs. Le capital financier, il est venu à constituer des poules agricoles qui font tout le travail qu'avant faisaient des petits agriculteurs.
Et ce que l'on voit donc en permanence, ce sont donc ces avions qui vont pesticider tous ces champs et c'est des poisons qui sont véritablement mortels. Donc vous avez rencontré les populations, vous avez rencontré des scientifiques, vous avez rencontré des médecins et ça se passe enfin, globalement dans une impunité absolument incroyable.
Oui, j'ai visité aussi les victimes, j'ai visité les travailleurs de la campagne. Mais on se trompe si on pense que seulement sont affectées les régions où se jettent ce type d'agrotoxicos. C'est pas vrai, parce que tous ces produits, pesticides, fungicides, glyphosate, sont dans l'air.
Ce qui veut dire que pour un kilo, on va dire, qui est vaporisé, on peut en avoir presque 900 grammes
tout à fait,
qui vont partir dans l'atmosphère, qu'on peut retrouver d'ailleurs.
Il peut aller kilomètres et kilomètres.
On va revenir aussi sur ce que l'on peut faire et sur différentes solutions, mais tout est lié aussi avec évidemment notre alimentation. Nous, on sait par exemple qu'en France et même en Europe, une grande partie de notre alimentation, c'est-à-dire à base de cochons, à base de bœuf, sont nourries grâce au soja transgénique. Et donc, il y a aussi les parcs d'engraissement qui sont extrêmement importants. Donc en Argentine, il y a 12 millions d'hectares quand même pour engraisser par le soja.
Mais oui! Je pense que c'est une erreur croire que c'est la soja le problème. Oui. Non, c'est pas la soja, c'est le modèle parce que il n'y a rien plus chargé d'agrotoxiques que la salade, que les légumes que nous mangeons tous les jours.
Oui. Alors, comment ça se fait que Monsanto, donc, ait eu une prise, donc, énorme? Il n'y a pas que, mais parce que tout le monde, en fait, est coupable dans ce système et vous le montrez très, très bien.
C'est la raide de complicité qui s'est développé autour des fausses idées. D'abord la publicité et la rentabilité. Quand arrive la soja transgénique à l'Argentine, c'est le 96. Et c'est un moment où les petits et moyens agriculteurs et la campagne, on peut dire, ils passaient un moment très faible. On était très endettés. Et alors arrivait ce modèle qu'ils parlaient avec beaucoup de publicité. Et beaucoup de professeurs dans les universités, etc., qui amenaient l'idée géniale de la production. Et alors, les agriculteurs ont loué ces 50, 40, 30, ou 70 ou 100 hectares et ont parti à la ville.
C'est-à-dire que tous les petits agriculteurs ont donné, ou bien en tout cas ont loué leurs terres, si, sur des petites quantités, que ce soit des 20, 30, 40 si, ou bien 100 hectares.
Et alors, que s'est produit la destruction de la petite...
Les petites fermes, enfin.
Fermes.
Vous en parlez, il y a plus de 110 000 exploitations qui ont été rayées, oui, 700 000 emplois donc aussi, d'apiculteurs.
On coupait tous les arbres.
Tous les arbres.
Et les maisons ont été absolument abandonnées. Et difficile, sera très difficile de repeupler la campagne argentine.
Et on a donc, on va dire, ringardisé évidemment cet ancien modèle. Mais alors, quelles sont quand même les solutions aussi derrière? Parce que
les solutions, c'est ces modèles c'est très dangereux parce que c'est l'empoisonnement de la population. D'abord, personne ne reconnaissait ça. Mais depuis 20 ans, ont commencé les universités à faire des enquêtes. Et une enquête maison par maison. Quelles étaient les maladies de la famille, les résultats, et bref.
De savoir s'ils étaient donc face à ces fameux poisons, face à ces différents épandages, et on se rend compte que c'est directement lié.
3 ou 4 fois plus de cancers dans ces villages. Alors, il y a eu naissance prématurée avec des formations terribles, des bébés sans un bras, sans un jambe.
Et là, les médecins parlent. Maintenant, ils parlent véritablement. Ils le voient. Vous les avez interrogés, donc ils sont tout à fait libres de parler. En 2017, on va le rappeler, il y a eu 340 millions de litres de glyphosate qui ont été donc répandus, plus tous les autres pesticides. Donc c'est un cocktail absolument incroyable. Vous avez rencontré un homme assez formidable, Jorge Rulli, qui est donc un gardien de semences, qui pratique l'éco-agriculture, comme il y en a beaucoup d'ailleurs aussi maintenant en Europe, en France, etc. Et celui-là, il nous donne de l'espoir quand même.
Nous avons beaucoup d'espoir, parce que ça, c'est une alternative qui se développe avec une énorme force. Il y a beaucoup de productions collectives pour l'éco-agriculture dans les petites parcelles de terre. Dans les jardins, dans les terrains qui étaient abandonnés et que c'est de la mairie, alors permission de la mairie pour faire des légumes et tout ça. Non, c'est très intéressant.
Ce que l'on vient d'entendre d'ailleurs aussi à Saint-Denis, là il y a quelques instants, donc c'est aussi ça. Il faut repartir sur des petites communautés pour
petites
vous.
Petites communautés, exactement.
Alors Fernando Solanas, on vous a fait venir aussi parce que votre film colle véritablement avec l'actualité, c'est-à-dire que la justice américaine a donné à nouveau raison aux victimes. Là, c'était le 27 mars, donc là, vraiment, c'était cette semaine. Et donc, a condamné Monsanto, encore, à verser 80 millions de dollars à un malade donc, du cancer qui utilisait régulièrement ce fameux Roundup. Donc, ça fait bouger aussi, cela, parce qu'il y a beaucoup de procès en attente maintenant.
Beaucoup, mon ami, dans les États-Unis, il est en course plus de 11 000 dénonciations judiciaires. Plus de 11 000.
C'est de l'espoir pour vous, ça.
Et si, c'est pas le problème que c'est un problème de l'Argentine particulier. Non, c'est un problème de tous les pays qui fait l'agriculture dans ces modèles qui viennent accompagner avec une batterie de poissons, fungicides, glyphosate, plaguicides.
Mais vous dites surtout à la fin que si on a un objectif un jour de santé, si on a un objectif de souveraineté alimentaire, bah là on pourrait s'en sortir, parce que ce serait un projet véritable pour demain.
Tout à fait. Un projet qui doit garder surtout la sécurité de la population, la santé et le problème de l'éducation et le problème culturel. Et je pense que le journalisme et les médias peuvent faire une contribution énorme. Mais aujourd'hui, l'inversion de tous les grands fabricants de ces produits soutient les médias, soutient les journaux. Alors,
oui, c'est ça. C'est-à-dire que les producteurs de ces produits chimiques, Monsanto entre autres, donc, achètent de la publicité pour faire tourner ces médias.
Et aujourd'hui, ce n'est pas Monsanto, c'est Bayer.
Une des solutions, mais vous le dites aussi, c'est de nous informer. C'est-à-dire que, évidemment qu'on ne va pas avoir du jour au lendemain sur les différents paquets que l'on peut acheter, mais des produits qui vont vous indiquer que telle bête a été nourrie avec du soja. Et malgré tout, c'est aussi la demande du consommateur qui pourrait faire changer ces pratiques.
Oui, il y a une partie de la population qui veut connaître la vérité. Il y a autre partie que c'est le public où s'adresse le film. Le film ne s'adresse pas à cette partie de la population qui connaît très bien le problème. À l'autre partie, il y a une partie importante qui dit mais sera ou non sera vrai tout ça? Parce que mon journal, il ne dit rien. Mes communicateurs, les journalistes de tous les jours, dans la radio, dans la télé, ils ne disent rien de ça. Non, peut-être c'est Solana qui exagère.
Fernando Solanas, pourquoi vous le faites ça, vous?
Je me sens un militant de la cause de la nature, de la démocratisation de notre société, de la justice et de tout ça. Après, quand j'ai devenu député et sénateur national, j'ai présenté tout type de projets viables, mais sont dans les tiroirs. Au Sénat, nous sommes deux, mais notre discours arrive très fort.
Bah, merci à vous. Hein? Merci Fernando Solanas.
Merci, merci.
Le grain est livré de Fernando Solanas, donc sortira le 10 avril. Merci à Camille Blanès qui a réalisé l'émission, à Marion Philippe, Charles Pélabon à la technique. La semaine prochaine, on parlera de famille en transition. Le podcast, vous avez l'habitude. Le Twitter, donc chez Sou, avec pas mal de vidéos si vous le souhaitez. Les petits bateaux. Et après, la tue du bon petit loup, 19h54 demain. Et quand même, une chose importante, dans la librairie francophone, Emmanuel Queyrat, dans quelques instants, reçoit le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege.
CO2 mon amour, avec le WWF. Ensemble, agissons pour stopper le réchauffement climatique. Rendez-vous sur www.fr.